Vous écoutez France Culture, il est 6h44, j'ai un peu d'avance aujourd'hui. Bonjour Xavier Martinet.
Bonjour Jacques Meunier.
Vous allez avoir plus de temps pour les enjeux internationaux.
Eh bien tant mieux, parce qu'on va parler des grands espaces nordiques. À 20 jours d'un des plus grands exercices de l'OTAN en Europe du Nord, les États baltes et scandinaves sont inquiets. La région est plus habituée à la coopération qu'aux tensions, mais peut-être c'était autrefois. On en parle avec vous, Nicolas Escache, bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être venu. Vous êtes géographe à l'université de Caen, maître de conférence aussi à Sciences Po Rennes. Et auteur de cet article, ou plutôt vous allez faire cette allocution aujourd'hui au Festival de géographie de Saint-Dié-des-Vosges sur les tensions en mer Baltique. Comment réagissent les pays scandinaves? Eh bien, ils sont inquiets. En tout cas, la ministre des Affaires étrangères norvégienne, Ine Eriksen, qui était en visite au Svalbard il y a 3 jours, se souciait, je cite, de potentielles tensions qui pourraient très bien se répercuter ici si elles commençaient ailleurs. Alors, le pays se prépare à accueillir l'exercice militaire Trident Juncture à la fin du mois, un des plus grands de l'OTAN, hein, 45 000 hommes. En cause, bien sûr, de cette inquiétude, c'est le renforcement de l'activité militaire russe en Baltique et Arctique, qui a placé, d'une part, les États baltes en première ligne, mais aussi les Scandinaves, la Suède et la Finlande réarment aussi, et se tournent plus activement vers les États-Unis et l'OTAN. C'est un vrai revirement pour la Suède, et c'est aussi un changement de sens pour cette mer, plutôt synonyme de coopération entre les 9 pays côtiers baltes, scandinaves, avec des russophones, des membres de l'Union Européenne, de l'OTAN, ceux qui n'en sont pas. En fait, depuis la guerre froide, la région a jusqu'ici absorbé en quelque sorte les tensions, mais le contexte géopolitique et climatique, on pourrait dire, n'est pas forcément favorable. Alors la Baltique et l'Arctique vont-elles tenir face à la militarisation? Peut-être pour commencer, Nicolas Escache, ce qui n'est pas l'actualité, mais je le disais, c'est cet ensemble à la fois tiraillé et espace très coopératif quand même ces 20 dernières années.
Oui, et d'ailleurs les recherches sur la mer Baltique ont plutôt insisté sur ces coopérations, mais aujourd'hui on voit bien aussi les divisions qui réapparaissent. Il faut dire que dans l'histoire de la Baltique, il y a eu plus de conflits que de coopérations. Même la Hanse historique, qui était le moment au Moyen-Âge où les coopérations et les échanges commerciaux étaient très forts, en réalité était plutôt une mer qui avait une connotation allemande. Donc il y avait aussi localement des effets de résistance. Et puis les pays nordiques avaient créé l'Union de Kalmar pour éviter un monopole justement des Allemands sur la Hanse, sur la Baltique. Donc effectivement, il y avait énormément de conflits dans toutes ces périodes. Et ensuite, des forces qui ont gouverné sur l'ensemble de la Baltique, d'abord les Allemands, puis les Suédois et les Russes, avec là encore des résistances. Et la coopération arrive tard, dans l'entre-deux-guerres en fait, puisque les pays baltes sont indépendants une première fois après la Première Guerre mondiale. Donc il y a des effets de coopération qui existent déjà dans l'entre-deux-guerres entre pays baltes, pays nordiques. Et puis évidemment, après la chute du rideau de fer, il y a une phase intense de coopération, de couture entre ces rives. Mais ce qui est assez notable, c'est que au moment où justement ces coopérations se tissent, la question de la sécurité est assez vite évacuée au profit de sujets plus consensuels, bien qu'importants, hein, comme l'environnement par exemple, la culture. Et on peut penser qu'aujourd'hui réapparaissent l'ensemble de ces questions qui n'ont pas été traitées, qui n'ont pas été abordées dans l'après-guerre froide. Et en fait, on vit la suite, en quelque sorte, de la guerre froide. C'est toutes ces questions qui n'ont pas été tranchées. Il faut se rappeler, par exemple, que les troupes russes, les dernières troupes russes quittent le sol balte en 1999. C'est il n'y a pas si longtemps. Mmh. Et le dernier traité frontalier entre l'Estonie et la Russie, c'est 2014.
Et alors, pour parler justement des traités, il y a une institution qui symbolise un peu cette coopération, c'est ce qu'on appelle le NB8, qui regroupe donc 8 pays de la région, créé en 92, plutôt centré au départ sur la coopération, on va dire, scientifique et énergétique, mais c'est vrai que depuis 2014, si on regarde, tous les ordres du jour sont consacrés à la sécurité, donc il y a une préoccupation qui est de plus en plus sérieuse, et cette institution qui se militarise aussi.
Oui, effectivement, on voit une conflictualité qui augmente. Alors, il y a plusieurs facteurs en jeu. La Russie, effectivement, pose un certain nombre de missiles, notamment à Kaliningrad, donc qui suscite bien sûr des inquiétudes. La crise ukrainienne a eu également des conséquences dans la région, puisque les États baltes se sont posé la question de savoir s'il pouvait y avoir une possible contagion suite à ce qui avait été la crise géorgienne, puis la crise ukrainienne. Et donc appelé à une protection notamment de l'OTAN. Et puis on peut penser aussi que la région devient de plus en plus stratégique. Effectivement, c'est une zone où passe 8% du trafic mondial. La construction du gazoduc Nord Stream permet l'approvisionnement donc d'hydrocarbures depuis la Russie jusque l'ensemble des pays européens.
Et permettrait de contourner l'Ukraine.
Donc au niveau énergétique, ça devient extrêmement important. Il y a des projets de corridors de transport entre la Baltique et l'Arctique. Donc les enjeux en Baltique font écho aussi aux enjeux en Arctique. Et donc ça explique aussi pourquoi il y a une mondialisation du conflit, avec des exercices russes qui associent les Chinois par exemple, avec évidemment les États-Unis qui, malgré des déclarations de Trump qui sont assez imprévisibles, sont toujours là. Et donc ça participe aussi, le fait que cette zone devienne de plus en plus stratégique, soit appropriée au niveau maritime aussi, puisqu'il y a des plans maritimes qui sont en train d'être établis, à ce que la conflictualité augmente.
Alors on va en venir à la Norvège, mais ce qu'on voit dans le contexte de cette année, alors justement vous l'avez évoqué, c'est que beaucoup de ce pays, dans cette ambiance un peu anxiogène, tendent à se rapprocher des États-Unis. Il y a eu une visite des ministres de la Défense suédois, finlandais en mai dernier au secrétaire d'État à la Défense américain. Justement, à quel point est-ce que ça peut décider un certain nombre de ces pays qui ne sont pas dans l'OTAN à y rentrer justement?
Alors effectivement, il y a le cas de la Suède et de la Finlande qui se posaient à un moment la question de savoir s'ils allaient rentrer dans l'OTAN et mettre fin à une période de neutralité, puisqu'ils étaient profondément, alors pour la Suède, profondément neutre au moment de la guerre froide.
Ouais,
la Finlande, c'était plus compliqué. Mais il faut voir qu'au niveau de la population, en Finlande notamment, la population est contre une adhésion à l'OTAN en grande majorité. Et lorsqu'on leur pose la question, même si la Suède rentre dans l'OTAN, est-ce que vous êtes pour que la Finlande rentre dans l'OTAN, ils répondent aussi non. Par contre, effectivement, il y a eu un accord de coopération qui a été signé entre la Suède, Finlande et les États-Unis, ce qui est fondamentalement nouveau. Et l'exercice dont que vous évoquiez tout à l'heure, qui a lieu en Norvège, associe également les partenaires que sont la Suède et la Finlande. Et ça, c'est vraiment fondamentalement révolutionnaire en termes de positionnement de ces deux pays.
Et révolutionnaire aussi, je le disais en introduction, pour la Suède, donc qui réarme alors que son armée avait été volontairement réduite à peau de chagrin. C'est quand même assez impressionnant. Je crois qu'il y a une conscription qui a été lancée. Il y a cette fameuse île du Gotland dont vous parlez, qui accueille de nouveau des troupes. Mais la Norvège, c'est vrai, c'est le pays qui présente une frontière de presque 200 km avec la Russie, qui est vraiment pas loin de Mourmansk et Severomorsk, les deux grandes bases navales. Est-ce que c'est le pays en première ligne aujourd'hui, justement?
Oui, parce que la Norvège, elle fait le pont, alors comme d'autres pays, mais elle fait le pont avec l'Arctique aussi. C'est-à-dire qu'elle est à la fois positionnée, même si elle n'est pas riveraine, elle est positionnée au niveau de la Baltique. Elle a des longues traditions de coopération avec les autres pays baltiques. Et puis aussi, elle est positionnée en Arctique, dans un espace complètement stratégique. Donc effectivement, la coopération entre les États-Unis et la Norvège est très importante pour la défense de ces deux espaces.
Très importante. Et alors, vers qui peut se tourner la Norvège? Est-ce que ça veut dire qu'elle va complètement décrocher vers les États-Unis? Elle prépare une politique de défense, mais elle a demandé le renforcement du contingent de Marines américains sur son sol également. Elle renforce ses achats aux États-Unis toujours. Est-ce que ça veut dire qu'elle va, disons, décrocher de l'Europe pour se tourner encore plus activement?
Il faut rappeler que la Norvège était un pays historique de l'OTAN. La Norvège et le Danemark étaient les deux pays qui faisaient partie de l'OTAN pendant la guerre froide. La Suède, donc je rappelais, était neutre. Donc effectivement, ça ne rompt pas par rapport à son positionnement historique, qui est un positionnement plutôt atlantiste.
Et un rapprochement avec le Royaume-Uni également dans ce contexte de Brexit, puisque le Royaume-Uni a aussi un œil forcément sur la Baltique et sur la mer du Nord, et qu'il y a un contingent britannique qui vient d'être annoncé cette année également en présence en Norvège, je crois, ou en Suède.
Et puis le Royaume-Uni, c'est aussi, enfin, on crée aussi le UK Joint Expeditionary Force, qui associe beaucoup des pays de la région. Notamment la Suède, le Danemark, la Finlande, les trois pays baltes, la Norvège, aux côtés des Pays-Bas. Et ça, c'est un organisme qui peut jouer un certain rôle, notamment pour gagner en autonomie par rapport aux États-Unis, puisque la question qui se pose aussi, c'est comment la sécurité, la défense peut prendre une tournure régionale, étant entendu que l'Europe fait l'objet de méfiance de la part des États baltes quant à sa capacité de les défendre. Donc il faut trouver aussi d'autres institutions, d'autres organes qui peuvent associer les pays de la région.
Et dernière chose, alors on a beaucoup parlé des aspects militaires, mais il y a aussi en préparant l'émission un autre aspect qu'on connaît moins dans la guerre de l'information ou dans la guerre, disons, plus large même économique qui est menée dans la région. Si on parle des points faibles, c'est ce qui se passe dans la région de Turku en Finlande, avec des petites îles qui seraient occupées par comment dire, des entreprises qui mèneraient des activités d'information en même temps.
Oui, ça c'est très intéressant, parce qu'on parle souvent de conflits hybrides ou de guerres hybrides, et en fait on voit bien que ce sont des petits éléments faibles qui s'accumulent. Ça peut être l'intrusion de sous-marins dans les eaux territoriales, ça peut être effectivement une guerre d'information, et parmi ces petits éléments faibles qui par accumulation finissent par être structurants et donnent lieu à une géopolitique insidieuse, on trouve effectivement dans la presse finlandaise ces derniers jours mention d'un oligarque russe qui aurait acheté des résidences sur plusieurs îles de l'archipel de Turku. On a retrouvé de l'argent sale sur ses résidences, et les Finlandais soupçonnent un possible espionnage depuis cet archipel. Donc on voit bien que là, il y a des effets indirects avec des prises de position territoriales par des acteurs économiques qui pourraient servir à d'espionnage. C'est pas nouveau, hein, puisque dans l'archipel de Turku, on avait trouvé aussi un bateau de pêche qui était prétendument équipé donc d'un matériel de surveillance et technologique qui n'avait rien à voir avec la pratique de la pêche.
Conséquence embarrassante de l'archipélisation. Je crois qu'il y a 6500 îles justement entre la Finlande et la Suède. En tout cas, on en reparlera de cette géographie, et vous, cet après-midi, vous en reparlerez donc au Festival de Géographie de Saint-Dié-des-Vosges à 17h sur les tensions en mer Baltique. Comment réagissent les pays scandinaves? Merci beaucoup, Nicolas Escache, je le rappelle, géographe, maître de conférences à l'Université de Caen et Sciences Po Rennes. Merci.
Merci.